Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, chers fidèles, peut-être un jour ou l'autre, vous êtes-vous étonnés devant une cérémonie de l'Église qui recommence, et bien à chacune des messes chantées, du moins les dimanches et les fêtes, la cérémonie de l'encensement. Parce que, non seulement on encense le tabernacle où habite notre Seigneur, ce qui est bien normal puisque notre Seigneur est Dieu, l'encens est réservé à Dieu, mais on encense également le prêtre, trois fois, le chœur et même les fidèles. Pourquoi cet encensement? C'est que l'Église veut nous enseigner le respect que nous devons avoir les uns envers les autres. La liturgie est une école de respect, qui est la fleur de la charité. Et puis surtout, l'Église veut nous montrer le motif pour lequel nous devons avoir cette charité, ce respect les uns envers les autres, qui est l'habitation de Dieu en nous, qui est un motif tout surnaturel. Et au contraire, le monde, lui, excité par le démon, cherche sans cesse à calomnier l'Église, à calomnier les fidèles. Vous connaissez certainement dans les journaux toutes les calomnies qui sont lancées contre l'Église. Je comprends, il y a un peu plus d'un an, le rapport Sauvé, qui était un tissu de calomnies, pour salir l'Église. Et cela recommence tous les jours, presque. Et malheureusement, parmi les fidèles, même dans la tradition, en voyant toutes les infidélités des prêtres aujourd'hui, des prêtres conciliaires, peut-être, assez facilement, aurait-on tendance à manquer envers ces prêtres du respect qui est dû, non pas à leur personne, non pas à leur vertu personnelle, mais bien à leur fonction. Alors, si vous le voulez bien, voyons d'abord pourquoi le démon mène cette campagne de calomnie contre l'Église, contre les fidèles, et en particulier contre les prêtres, puisque bien sûr on ne veut pas imiter le démon. Ensuite, voyons pourquoi l'Église nous demande de respecter, que ce soit toutes les âmes, en particulier nos frères, et puis tout particulièrement les prêtres, les personnes consacrées. Et puis enfin, nous répondrons à une petite objection, celle qui vient justement de l'indignité de beaucoup de fidèles, de beaucoup de prêtres surtout. Alors d'abord, pourquoi est-ce que le démon attaque tant l'Église, attaque tant les fidèles, cherche à répandre le mépris? La première raison, c'est évidemment parce que le démon nous hait, le démon nous méprise. Il a des bonnes raisons, pourrions-nous dire, pour cela. D'abord, évidemment, le démon est combattu par les fidèles et en particulier par les prêtres. Forcément, il ne va pas les aimer, il nous hait. Et puis en même temps, deuxième raison, la vie de tous les fidèles et en particulier la vie des personnes consacrées sont un reproche terrible, un reproche vivant qui est fait au démon. Pour comprendre, le démon a été créé avec des dons tout à fait inestimables, avec une nature supérieure, celle du pur esprit, avec la grâce. Il n'avait qu'un seul acte, qu'un seul oui à dire à Dieu, et alors il rentrait dans le bonheur éternel. Dieu lui a vraiment fait des grâces, des dons vraiment extraordinaires. Et pourtant, le démon n'a rien donné à Dieu. Dès le premier instant, son premier instant libre, il s'est révolté contre son Créateur, il s'est révolté contre son Bienfaiteur, celui à qui il devait tout. Le démon n'a fait absolument aucun bien, absolument rien. Alors quand il voit ces personnes consacrées, qui ont une nature bien inférieure à la sienne, qui n'ont qu'une chair, une chair corruptible, qui en plus sont affectées par le péché d'Adam, par les suites du péché originel, se donner tout entièrement à Dieu, se donner toutes les fibres de leur âme pour plaire à Dieu, ça lui est un reproche terrible, quel contraste avec ce que lui-même a fait. Et de même, quand il voit tous ses fidèles qui cherchent à plaire à Dieu tous les jours, qui cherchent à aimer Dieu de plus en plus, un peu plus tous les jours, cela lui est absolument insupportable. Alors il nous hait, il nous méprise, il cherche à nous faire mépriser. Et puis ensuite, le démon trouve de grands avantages, pourrions dire, de son point de vue, à répandre le mépris contre les fidèles. D'abord, le mépris des fidèles pour eux-mêmes, pour la grâce qu'ils ont en eux. Vous savez, vous connaissez sans doute cette belle parole de Saint Léon le Grand dans son petit sermon. « Agnosce Christiane tuam dignitatem » Reconnais aux chrétiens ta dignité. C'est quoi notre dignité? C'est la grâce qui est en nous, c'est la participation à la vie divine. Et lorsqu'on reconnaît, lorsqu'on pense vraiment à ce trésor qui est en nous, on veut en profiter. parce que quand Dieu a déposé cette grâce en nous, c'est comme un germe qui doit croître sans arrêt. Par nos bonnes œuvres, nous pouvons faire grandir en nous cette charité qui nous méritera une récompense éternelle, une récompense magnifique qu'aucune langue humaine ne peut décrire. Le démon, lui, sait bien cela. Alors, pour nous décourager, ou du moins pour faire en sorte que nous profitions moins, que nous fassions moins de bonnes œuvres, il cherche à faire en sorte bien qu'on ne s'en rende pas vraiment compte, qu'on mésestime ce don de la grâce qui est en nous. Premier manque de respect, pourrions-nous dire, celui qui est envers nous-mêmes. Puis surtout, le démon cherche à répandre le mépris, ou du moins des froideurs, entre les fidèles, ou entre les prêtres. Cela pour briser, autant qu'il est en lui, autant qu'il est possible, l'union, l'unité de l'Église. Parce que c'est bien que l'union fait la force. Vous connaissez bien l'adage. L'Église est vraiment forte quand elle est unie, quand elle est unie par les liens de la charité. Saint Paul parle de ces liens de la charité qui unissent les fidèles entre eux. Alors qu'au contraire, quand ces liens sont affaiblis par le mépris, par la mésestime, par les froideurs, par les manquements à la charité, bien cela affaiblit toute l'Église. Alors on voit bien aujourd'hui, l'Église est divisée, bien divisée, et à cause de cela, le démon est puissant, le démon est fort. Il peut perdre facilement les âmes parce que le troupeau est comme dispersé. Et puis enfin, le démon attise le mépris des fidèles envers les prêtres ou envers les personnes consacrées. Et cela pour trois raisons. D'abord, pour que les fidèles n'imitent pas leur générosité. Évidemment, si les fidèles ont une moindre estime pour la vie des prêtres, pour la vie des personnes consacrées, ils ne chercheront pas à les imiter. Or, l'Église demande aux fidèles d'imiter cette vie religieuse, évidemment à leur place, avec les changements qui s'imposent forcément, mais enfin, une certaine imitation de ce don total à soi-même, à Dieu, qui est particulièrement manifesté par les vœux de religion, pour la vie du prêtre. Et puis ensuite, surtout le démon veut que nous profitions, que les fidèles profitent moins des grâces que les prêtres peuvent leur donner. Franchement, si les fidèles estiment moins le prêtre ou ont une certaine froideur vis-à-vis de lui, surtout les prêtres qui s'occupent d'eux, bien ils profiteront moins des sacrements. Dans le sacrement de la pénitence, par exemple, ils s'ouvriront moins facilement et par conséquent, ils auront des conseils moins bien adaptés à leur situation. Le démon sait tout cela et cherche donc à attiser une froideur des fidèles vis-à-vis du prêtre. Et puis surtout, le démon cherche, troisième raison, à décourager les vocations. Les jeunes gens, les jeunes filles, pour qu'ils se donnent tout entier à Dieu, par les vœux de religion ou encore par pour le prêtre, en rentrant dans les ordres, cela demande une très grande générosité, cela demande un très grand sacrifice. Et pour faire ce sacrifice, il est évident bien qu'il faut avoir une très grande estime de la vie dans laquelle on rentre, de la vie religieuse ou de la vie du prêtre. Alors, si le démon réussit à répandre la mésestime, une certaine froideur, eh bien, c'est la meilleure manière de décourager une vocation à sa racine même. Donc voilà pour le quoi le démon répand ces calomnies, ou du moins assez de susciter la zizanie dans la Sainte Église, vis-à-vis des fidèles, vis-à-vis des prêtres. Voyons maintenant pourquoi l'Église, elle, nous enseigne le respect les uns envers les autres, et en particulier envers les personnes consacrées, le prêtre. Puis d'abord, donc, vis-à-vis des âmes en général, même les âmes des infidèles, ensuite plus particulièrement des fidèles entre eux, puis enfin pour les consacrés, pour les prêtres. Alors d'abord, nous devons avoir un grand respect pour toutes les âmes, pour chacune des âmes, même de ceux qui n'ont pas la foi, même pour ceux qui ne sont pas dans la Sainte Église. Pour deux grandes raisons. La première, c'est que chacune des âmes, même donc des personnes qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas la grâce, bien sont à l'image de Dieu, ont été créées à l'image de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, à l'image de Dieu? Bien, vous savez que Dieu est pur esprit. Dieu est esprit, il est intelligence et volonté. Alors, quand on dit que l'âme est à l'image de Dieu, ça veut dire qu'elle est un esprit qui est fait pour être uni à un corps, bien sûr, qui est bien imparfait vis-à-vis, qui n'est rien à côté de Dieu, mais enfin, qui a une trace de qui a une image de Dieu. Elle a une intelligence, elle a une volonté. Et puis la deuxième raison, la plus importante, pour laquelle on doit estimer bien, toutes les âmes, c'est parce que Dieu appelle tous les hommes au salut éternel. Dieu appelle tous les hommes au bonheur éternel si elles coopèrent à la grâce. Comme le dit saint Paul, Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est dans son épître, la première épître à Timothée. Donc il faut avoir un grand zèle, un zèle pour le salut de ces âmes que Dieu appelle au bonheur, au ciel. Et puis surtout, il faut que vous ayez, il y a un grand respect, une grande estime les uns pour les autres, chers fidèles. Pourquoi? Eh bien, pour trois raisons. L'Église nous donne trois grandes raisons. Vous participez à la vie divine par la grâce. La grâce, c'est une participation à la vie divine, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Et par là, vous devenez aussi membres de Jésus-Christ et aussi les temples du Saint-Esprit, de la Sainte Trinité tout entière. Ce sont là des vérités très profondes quand on y pense. Si on s'arrête quelques instants pour penser à cela, Dieu habite en nous, Dieu habite en chacun d'entre vous, si vous êtes en état de grâce. C'est là une vérité d'une grande profondeur. Eh bien, on le sait, on le professe, mais peut-être est-ce qu'on n'en vit pas assez? Est-ce que facilement, on aurait tendance, dans nos jugements, à s'arrêter à la surface des choses, aux petits défauts des personnes, aux petites froideurs, aux petits froissements, et de manquer de cet esprit de foi qui fait vraiment prendre compte de ces grandes vérités, Dieu qui habite en chacun d'entre nous. Si on pense vraiment à cela, bien, nous pratiquerons bien plus facilement la charité, nous aurons vraiment bien plus facilement, nous saurons bien nous montrer ce respect, cette amabilité, cette affabilité que l'Église nous demande d'avoir les uns envers les autres. C'est des vérités très importantes, bien qu'il ne suffit pas de croire de bouche, mais qu'il faut vraiment pratiquer dans notre manière de vivre. Et puis enfin, l'Église demande d'avoir un grand respect pour le prêtre, évidemment. Vous connaissez cette formule, sacerdos alter Christus. Le prêtre est un autre Christ. Notre Seigneur a élevé certains hommes de manière tout à fait gratuite. Aucun homme, même les plus grands saints, ne sont dignes de devenir prêtres, c'est évident. C'est une grâce inestimable. Mais enfin, dans sa très grande libéralité, dans sa très grande générosité, notre Seigneur a voulu faire participer certains hommes à son sacerdoce. Pourquoi? Bien pour donner aux autres hommes ses dons surnaturels, le don de la doctrine sacrée, le don de l'enseignement, le don des sacrements surtout, et par les sacrements de la grâce, et même lui-même par la Sainte Communion, il se donne lui-même par la main du prêtre. Bien, toutes ces choses font que le prêtre représente Dieu d'une manière tout à fait imminente. Il représente l'autorité de Dieu, non pas encore à cause de sa personne, mais à cause de sa fonction, de la grâce, du sacrement de l'ordre qui est en lui, du caractère sacerdotal qui est dans son âme. Ce qui fait que c'est un devoir pour les fidèles d'avoir ce respect du prêtre. Alors répondons rapidement, puisque le temps passe malheureusement, à une objection qui se pose facilement aujourd'hui, quand on voit bien tous ces prêtres conciliaires qui se montrent indignes de leur sacerdoce. Eh bien, on pourrait se dire, faut-il vraiment les respecter? Eh bien, pour répondre, nous prendrons simplement ce que Dieu lui-même a dit à Sainte Catherine de Sienne dans les dialogues. Quand on parle des dialogues de Sainte Catherine de Sienne, c'est une conversation de Sainte Catherine de Sienne avec Dieu lui-même qui est transcrit pendant qu'elle était en extase par des personnes qui écrivaient à ce moment-là. C'est une certaine autorité. Et il faut savoir qu'à l'époque de Sainte Catherine de Sienne, l'Église vivait une très, très grande, très profonde décadence. Il ne faut pas penser que notre époque est tout à fait sans précédent, sans certains précédents dans l'histoire. À l'époque, Dieu reprochait dans ses dialogues aux prêtres des vices énormes. On a du mal à s'imaginer qu'ils étaient pratiqués. Déjà, beaucoup d'entre eux vivaient dans le concubinage tout à fait public, ouvert, devant tous les fidèles, c'était tout à fait scandaleux. Beaucoup de prêtres pratiquaient la simonie, c'est-à-dire qu'ils vendaient les sacrements, la Sainte Communion et ainsi de suite, de telle sorte que les pauvres qui n'avaient pas d'argent ne recevaient pas les sacrements, tout simplement. Donc, c'est aussi un des plus grands crimes qui existent dans cette Église. Ensuite, et pire encore, certains prêtres même simulaient la consécration. Donc, c'est Dieu lui-même qui le dit, c'est bien. Certains prêtres simulaient la consécration, donc voilà, ils faisaient semblant de célébrer la messe, mais au moment de la consécration, soit ils ne disaient rien, soit ils disaient des paroles qui n'étaient pas les paroles de la consécration, soit ils ne voulaient pas consacrer. Donc toujours est-il que c'était des messes invalides qu'ils faisaient sciemment. Donc autant vous dire que dans l'Église, cela n'allait pas très bien, et ces vices étaient répandus partout dans la Sainte Église. Et pourtant, que dit Dieu lui-même, Dieu le Père, à Sainte Catherine de Sienne? Je vous lis, c'est écrit. Si tu me demandes pour quelle raison les fautes de mes ministres, c'est-à-dire des prêtres, ne diminuent en rien le respect qu'on leur doit rendre, je te répondrai, parce que tout le respect qu'on leur témoigne, ce n'est pas à eux qu'ils s'adressent, mais à moi, par la vertu du sang dont je leur ai confié la dispensation. C'est à cause de ce ministère qu'ils remplissent que vous êtes obligés à ce grand respect. Et un peu plus loin, ces marques de révérence qu'on a pour eux ne leur sont pas dues à cause de leur personne, mais à raison de l'autorité qu'ils tiennent de moi. Leurs défauts ne peuvent en rien affaiblir ou diviser le mystère du sacrement. Ils ne doivent donc pas diminuer non plus les hommages qu'on leur doit, non pour eux-mêmes, encore une fois, mais pour le trésor du sang dont ils ont la garde. Et puis je terminerai en citant l'exemple, un très grand exemple de Mgr Lefebvre. Mgr Lefebvre, vous savez bien, tout au cours de sa vie, deuxième partie de sa vie, a repris très vigoureusement les erreurs de l'Église conciliaire, des prêtres, des évêques et même du pape. Et pourtant, Mgr Lefebvre a toujours fait cela avec un très grand respect, pour leur fonction, justement, même si dans leur personne, ils déviaient gravement de la foi. Mgr Lefebvre a toujours, réfuté avec un grand respect. Il ne les insultait pas, il ne se moquait pas d'eux, il ne cherchait pas à les diminuer par ses moyens, par ses manques de respect. C'est très impressionnant quand on écoute tous les enregistrements des sermons de Mgr Lefebvre, de ses conférences. Voilà, cet équilibre en la dénonciation des erreurs et le respect pour leurs fonctions. Eh bien, cherchons à imiter cela. En conclusion, demandons à Notre-Dame cet esprit de foi, qui ne s'arrête pas à la superficie des choses, mais qui sait aller plus loin, qui sait vraiment vivre selon ce que notre foi nous enseigne, selon ce qu'on sait de notre prochain, qui est le temple du Saint-Esprit, ce que l'on sait du prêtre, qui est un autre Christ. Demandons cela à Notre-Dame, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.